Chers amis, si je vais donc intituler cette conférence, on pourrait dire l'enseignement entre pédagogie et démagogie. En effet, le ministre que nous avons actuellement, officiellement, nous dit qu'il va renforcer le niveau, va faire en sorte que, justement, une pédagogie peut-être plus vigoureuse soit appliquée. Ségolène Royal dit également qu'il faudrait mettre un peu plus de discipline, l'enseignement de l'instruction civique devrait revenir dans les lycées et les collèges. Vous en avez entendu parler. Il est question de même morale laïque, et qui devrait être restaurée. Mais M. Allègre, lui, a voulu, avant de mettre au point sa réforme, consulter les principaux intéressés, c'est-à-dire les lycéens. Et à la fin de l'année civile, donc fin décembre, il a envoyé aux 2,5 millions de lycéens que compte la France un questionnaire. Et nous avons les premiers éléments de réponse à ce questionnaire. On le trouve dans l'édition du Monde du 8 et 9 février, donc au début de ce mois. On a un échantillon sur deux académies, l'académie de Caen et l'académie de Créteil. Mais c'était déjà assez suggestif. Et je vous disais, entre pédagogie et démagogie, le projet annoncé, déclaré, c'est on veut rendre l'enseignement plus efficace, le niveau, effectivement, n'a que trop tendance à baisser, donc il faut faire certains efforts pour qu'il soit rehaussé. Mais la démarche même du ministre manifeste plus une intention démagogique qu'un réel souci pédagogique. D'abord, ce questionnaire, ceux d'entre vous qui sont dans l'enseignement l'ont peut-être eu entre les mains. Je vais vous dire quelles étaient les questions qui étaient posées, pour que vous voyez un peu les réponses. D'abord, on demandait aux lycéens de s'identifier. Le questionnaire était anonyme. Enfin, on lui demandait s'il était un lycéen, une lycéenne, s'il répondait au nom d'un groupe, combien de personnes, quel âge, quel type d'établissement, où est-ce que ça se localisait. Bien. Ensuite, il y a trois pages, trois questions qui elles-mêmes se subdivisent en plusieurs questions plus précises, plus particulières. Le premier groupe de questions, c'est « Qu'apprenez-vous au lycée ?» Deuxième groupe, « Comment apprenez-vous au lycée ?» Donc, quelle matière, quelle discipline ? Et est-ce que vous êtes satisfait de la pédagogie mise en place ? Enfin, est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'il faut faire ou pas ? Et puis, troisième groupe de questions, pourquoi apprendre au lycée? Donc, ça s'adresse aux élèves qui sont en seconde, première, terminale. Je vous lis d'abord les questions et nous verrons ensuite donc, ces éléments de réponse. Qu'apprenez-vous au lycée? Dans ce que vous apprenez au lycée, qu'est-ce qui est le plus important? Et on demande pour votre vie personnelle, pour votre insertion professionnelle. Dans cet ordre d'idées, on pose la question, qu'est-ce que vous jugez important d'apprendre au lycée, mais qui vous ennuie? C'est un critère intéressant, n'est-ce pas? Est-ce que c'est important, mais aussi est-ce que ça vous semble ennuyeux? Alors, les élèves sont invités à donner là des réponses. Ensuite, troisième question dans ce groupe-là, sur les matières, donc sur les disciplines, pensez-vous qu'il y a un remède possible à cet ennui? Si oui, lequel? J'entends à vos sourires que vous devez avoir des idées sur les réponses qui ont dû être apportées. Quatrième question, toujours dans cette page-là, qu'est-ce qui vous apparaît inutile et sans intérêt dans ce que vous apprenez au lycée? Donc on demande aux lycéens, vous comprenez bien, qu'est-ce qui vous ennuie? C'est un critère quand même particulier. Hein. Qu'est-ce qui vous ennuie? Qu'est-ce que vous voudriez voir disparaître au fond? Qu'est-ce qui est inutile? Qu'est-ce qui est sans intérêt? Et alors, soyons positifs, dernière question, qu'est-ce que vous souhaiteriez apprendre au lycée et que vous n'y apprenez pas encore? Ce questionnaire peut fonctionner de plusieurs façons. Les historiens diront que ça peut être une forme de cahier de doléances, comme avant toute révolution, n'est-ce pas? On peut demander comme cela aux intéressés qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il y eût, qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous n'êtes pas assez, qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse. Bon, cette démarche est curieuse, mais les réponses vont vous donner exactement la tonalité de cette vaste opération médiatique et somme toute démagogique, vous disiez-je. Pour information, je vous donne lecture rapidement des deux autres groupes de questions. Alors, comment apprenez-vous au lycée? Est-ce que vous trouvez que c'est intéressant? Alors, s'il y a une question qui vous a vraiment semblé bien traitée, bien assimilée, dites laquelle. Et comment est-ce que vous avez pu assimiler cela? Est-ce que c'était un exposé seul, un exposé à plusieurs, un travail en groupe, un cours magistral, un stage en entreprise, des devoirs ou contrôles, des examens blancs, un travail à la maison, une recherche documentaire au centre d'orientation, une recherche personnelle, extérieure, la lecture d'un livre? Bien, on vous demande. Comment est-ce que vous avez fait l'apprentissage, là, d'une découverte personnelle? Dans la liste ci-dessous, y a-t-il des méthodes d'apprentissage utilisées en classe qui vous donnent le sentiment de perdre votre temps? Lesquelles? Alors, vous pouvez déjà peut-être vous dire, le cours magistral, ça peut être très bien classé dans le hit parade, le top 50 des méthodes pédagogiques en vogue. On vous demande, bien sûr, aussi donc de juger les moyens de contrôle, les devoirs, les contrôles, les examens blancs. Un jour, on est évident qu'on évaluera les professeurs. Autre question, faites-vous vous-même des rapprochements entre des savoirs que vous apprenez séparément dans différentes matières? Donc, vous arrivez à passer de la géographie à, je ne sais pas, à la philosophie. Faites une proposition qui pourrait permettre de faciliter ces rapprochements. Que proposez-vous pour que l'évaluation, alors là on arrive au vif du sujet, pour que l'évaluation vous permette de progresser davantage? Alors cette évaluation, les notes, les conseils de classe, les examens, comment est-ce qu'on pourrait améliorer cela? Imaginez pour cela d'autres formes d'évaluation. Troisième page, pourquoi apprendre au lycée? À votre avis, à quoi sert ce que vous apprenez au lycée? Alors, ça fonctionne un petit peu comme un questionnaire à choix multiples. Est-ce que c'est pour réussir votre examen, réussir votre orientation, réussir votre insertion professionnelle, développer votre personnalité, acquérir une culture générale? Et je vous le dis tout de suite, l'ensemble des réponses qui ont déjà été dépouillées visent l'insertion professionnelle. C'est-à-dire qu'on ne songe plus à un lycée qui donnerait une culture générale ou qui permettrait de développer la personnalité. Vous allez le voir très rapidement. Toujours dans cette page, dans les questions qui étaient proposées, le lycée permet-il, à votre avis, d'acquérir les qualités suivantes? Et là, c'est pour voir s'ils acquièrent des qualités citoyennes. Est-ce que vous avez de l'esprit critique? Est-ce que vous avez réussi à acquérir le respect de l'autre? Une certaine autonomie, une créativité, un esprit d'initiative, la curiosité et le civisme aussi. Alors, comme ces termes peuvent paraître un petit peu abstraits pour le lycéen moyen, de l'aveu même des rédacteurs de ce questionnaire, sous la question, il y a une traduction presque, esprit critique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? À l'égard des opinions, préjugés et tentatives d'embrigadement sectaire, on devine. Respect de l'autre, apprentissage de la vie en commun et de la discussion démocratique. Civisme, conscience de ses droits et de ses devoirs de citoyen. Faites une proposition importante à vos yeux pour que le lycée favorise votre réussite. Donc voilà ce qui a été proposé aux lycéens et les réponses que nous avons. Ce qui sera intéressant, c'est de voir quand tout sera dépouillé, qu'est-ce que M. Allègre fera. Là, vous avez un aperçu des réponses. Vous verrez dans quel sens on pourra les utiliser au ministère de l'Éducation, à mon sens. Alors, le Monde a regroupé cela en aussi 3-4 groupes de questions-réponses. Ce qui frappait les journalistes qui ont pu dépouiller les premiers questionnaires parvenus au ministère, c'était bien sûr la question de l'ennui. La première chose, c'est ça, c'est quand même un critère particulier. On va juger de la valeur d'un enseignement sur l'ennui qu'il peut dégager ou pas. L'ennui, la question est aussi vieille que l'école, et le questionnaire du ministère de l'Éducation nationale ne l'élude pas. Aussi est-il demandé aux lycéens, vous retrouverez les termes même du questionnaire, aussi est-il demandé aux lycéens ce qui leur apparaît inutile et sans intérêt, mais aussi ce qui les ennuie dans ce qu'ils jugent pourtant important d'apprendre. Et voici les réponses. Chacun a ses bêtes noires. Un point du programme, une discipline entière, parfois. C'est pour cet élève, le 19e siècle, les guerres, la trigonométrie, le commentaire de texte, la grammaire française et étrangère. Cet autre estime que la monarchie et l'étude des plantes sont inutiles et sans intérêt. Connaître la composition des engrais et la civilisation byzantine ne sert à rien. C'est l'alliance, évidemment, des matières qui sont un peu étonnantes. La monarchie, l'étude des plantes, la composition des engrais, la civilisation byzantine. Là, vous avez un aveu. L'histoire géo m'endort. Mais c'est quand même bien de connaître nos origines. Néanmoins, le XIIe siècle, on s'en fout. Si, bien sûr, je ne me permettrai pas de m'adresser à vous de façon si désinvolte. L'électricité et le Moyen-Âge me barbe, recique. Ajoute l'autre. La vie des végétaux et l'histoire très ancienne, j'aime pas, recique. Sans surprise, des élèves de filière littéraire voudraient supprimer les mathématiques. Ceux qui se passionnent pour les sciences en redemandent et critiquent les cours d'histoire-géographie. Si l'anglais est important pour l'avenir, son enseignement est souvent jugé rébarbatif. Alors comment rendre le cours d'anglais plus attractif, moins rébarbatif? Eh bien, cet étudiant a tout de suite trouvé, cet élève, il faudrait écouter de la musique et étudier les paroles, si tant est qu'il y en ait. Et puis, il y a les irréductibles, ceux qui, une fois pour toutes, se disent écœurés, pour qui la vie décidément est ailleurs. Toutes les matières m'ennuient. Le remède n'existe pas à part dormir en cours. Les cours sont toujours trop longs. La fatigue prend le dessus. Alors, on ne se concentre plus, explique un lycéen de terminale. À ceux-là qui attendent dans l'accablement la récré ou la sortie, répondent les pragmatiques. Je pense qu'apprendre au lycée des choses nouvelles nous ennuie peut-être maintenant, mais plus tard, on en aura sûrement besoin. C'est un philosophe, sûrement. Comment égayer ces tristes heures de cours? Retrouver un semblant de goût, un peu d'intérêt, puisque le questionnaire invite à faire preuve là, de créativité. Alors certains ont une créativité dévastatrice, puisqu'ils disent carrément « changer les profs », qu'ils soient moins maussades quand ils racontent leurs cours. On leur demande au fond d'être motivés, motivants et compétents. Je dis que cette démarche est démagogique. Pourquoi? Parce que, déjà, Platon l'avait vu au 5e siècle avant Jésus-Christ. Lorsque on demande à des jeunes gens, n'est-ce pas, de gouverner, d'évaluer, de commander au maître, au fond. C'est une démarche de type démagogique et elle prélude à une forme d'anarchie. Enfin, vous en voulez certainement encore un petit peu plus, je vais vous en donner. De nombreux élèves aimeraient aussi que l'organisation et les rythmes d'enseignement soient modifiés. Il faut reconsidérer complètement la structure du cours. De nouveaux procédés d'apprentissage qui plaisent aux élèves. Évidemment, qu'est-ce qui peut vraiment remédier à cet ennui? C'est quelque chose qui plaît. Donc il faut arriver à trouver quelque chose qui va plaire. Et là tout de suite, ça se résume en deux mots. Ce qui plaît, c'est le pratique et le ludique. Que ce soit très pratique, très concret, très professionnel, surtout pas spéculatif, pas culturel. Il ne s'agit pas du tout de viser une formation de l'intelligence, du cœur, non. Du concret, vous allez le voir immédiatement, c'est ce que j'appelle pratique, professionnel. Au fond, un lycée technique tout de suite. on ne perde pas son temps. D'ailleurs, l'un d'entre eux a le courage de le dire, il se destine pourtant au barreau, il dit, eh bien, pourquoi pas, dès la fin du collège, choisir 4 ou 5 matières qui conviennent à notre ambition professionnelle. Donc, faire l'impasse sur la culture générale au lycée, mais tout de suite, donc fin du collège, après la troisième, trouver les 4 ou 5 matières qui vont permettre déjà d'acquérir une formation pré-professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'il voudrait apprendre? Eh bien, quand je dis pratique, c'est parfois très, très, très pratique. Quelque chose qui revient souvent, c'est la cuisine. Je voudrais faire de la cuisine. Nous aurons bientôt des agrégés de cuisine, comme ça. On peut comprendre aussi, très pratique, l'informatique, bien sûr. Et puis, ludique, le théâtre. Cette triple demande résume assez bien les envies des lycéens. Donc, poursuit le journaliste du Monde. Je voudrais faire de la cuisine, de l'informatique et du théâtre. En général, ils regrettent de ne pas apprendre suffisamment la vie dans son côté pratique, de ne pas être assez préparé à l'avenir et au développement des nouvelles technologies, et d'avoir peu d'activités culturelles. Activités culturelles dans le sens ludique, justement, théâtre. Dans la catégorie « Il n'y a pas que le français et les maths dans la vie », tout y passe. Alors voilà une série de réponses. Je veux des cours de vie pratique et de cuisine. On sent quand même qu'on est en France. Ça fait plaisir. Tout y passe. Je veux des cours de vie pratique et de cuisine. Je veux apprendre à conduire. Au lycée, c'est pratique. Connaître le code de la route. Des cours de secourisme ou de sauvetage. Là, voilà quelqu'un qui a des ambitions très très précises. Des cours de cyclomoteur en pleine ville. Savoir comment remplir des papiers administratifs. Avec la sécurité sociale, c'est de plus en plus important. Je veux savoir gérer mon budget. Et puis, il y a cette réponse désarmante, pathétique. Je veux avoir des cours de vie. Je voudrais apprendre ce qui se passe vraiment dans la vie actuelle, ce qu'on ne sait pas, qu'on ne nous dit pas. Je voudrais savoir faire un CV, un curriculum vitae, utiliser un ordinateur, se présenter à l'oral, suivre des cours de psychologie. L'oral, avec l'idée justement de l'entretien d'embauche, n'est-ce pas ? Les cours de psychologie, de droit, apprendre la vie professionnelle. Le plus important, dit un autre, c'est d'apprendre à se comporter en adulte, faire des stages. J'aimerais connaître la sténographie, car de nombreux employeurs réclament cette spécialité. Un autre qui souhaite devenir opérateur en PAO, n'est-ce pas, les publications assistées par ordinateur. Là, vous avez un futur infectologue, mais même le journaliste du Monde ne sait pas ce que c'est. Une de mes étudiantes me dit que c'est peut-être quelqu'un qui a voulu écrire un sectologue, parce que ça existe comme profession. Le plus important, dit celui-ci, donc le futur infectologue qui est en seconde, le plus important, c'est d'apprendre le chômage. Non pas qu'il veuille en faire un métier, je pense pas. Mais peut-être comment éviter. Apprendre le chômage, l'entreprise et le salaire net ou brut. Et puis tout est mélangé après. J'aimerais aussi que le lycée aborde tous les sujets tabous, tels que le sida, les cancers, les hépatites. Et puis vous avez, bien sûr, les activités dites ludiques, c'est ça, la musique, mais pas trop de classiques. Des cours de théâtre, de comédie, les différents styles de lecture, science-fiction, fantastique, poésie moderne, les jeux de lettres. Alors, un qui joue certainement la provocation, lui voudrait apprendre le baby-foot, le flipper, le deal et le repérage des champignons hallucinogènes. Certainement, c'est une lassitude et c'est un ennui, les champignons de Paris, c'est quand même triste. Un autre, je ne sais pas s'il veut se livrer à des expériences, aborder les nouvelles découvertes comme le clonage. Apprendre l'étude des planètes. Puis, comme on avait dit qu'il fallait quand même combattre cet ennui, alors comment faire? Mais certains disent, c'est ça, il faudrait que les cours soient plus vivants, plus actifs, une ambiance plus chaleureuse, donc du pratique. Là, vous en avez un qui est très astucieux, qui dit « on devrait travailler sur ordinateur ». Pourquoi ? Parce que quand on travaille sur ordinateur, on a les mains toujours occupées sur le clavier, donc on ne peut pas s'endormir. On ne serait jamais distrait. Il y a des petits malins qui veulent choisir les matières selon leur goût. Il y en a un très pratique qui lui demande, réclame, exige presque, je vous dis sur des cahiers de doléances, 100 francs pour chaque cours ennuyeux. Celui qui propose qu'on lui apprenne à ne jamais s'ennuyer. Il y en a un autre, je pense que ça doit être un garçon, qui lui veut des profs blondes, avec d'autres détails anatomiques que je ne peux pas vous donner. Alors, cette démarche-là, vous allez me dire, bon, c'est médiatique, c'est journalistique, c'est pas... Certainement que c'est inspiré par une certaine démagogie, mais ça ne va pas entrer en pratique, si. Avant même d'envoyer ce questionnaire, M. Allègre avait annoncé le plan informatique qu'il voudrait voir appliqué sur les 3 ans à venir, donc pour l'an 2000. C'était dans le Figaro du 18 novembre 1997. Et là, c'est très précis. On voit effectivement qu'ils veulent du pratique et, si possible, du ludique. L'informatique présente cet avantage-là. Ce sera pratique et en même temps, c'est amusant. Alors, le ministre a dit, d'ici l'an 2000, que manipulation et dessin informatique soient accessibles dès la maternelle. Donc, et on va utiliser des ordinateurs et il faut qu'à la fin de la maternelle, on sache déjà faire un dessin à l'informatique et manipuler donc l'ordinateur. Dès le cours élémentaire, le courrier électronique. Le web, c'est-à-dire Internet, dès le cours moyen. Le travail en réseau dès le collège et l'adresse personnelle dès le bac. Vous voyez, il y a un plan quand même assez précis. Chaque étudiant, chaque enseignant, chaque classe pourra disposer d'une adresse électronique au terme de ces 3 ans de réforme. C'est ce qu'on a appelé les projets multimédia du ministre actuel et pour lequel, ça peut vous intéresser parce que c'est quand même votre argent, 1 milliard de francs va être investi par an, donc 3 milliards d'ici l'an 2000. Vous pouvez me dire, bien sûr, c'est un peu sceptique, vous pouvez vous dire, enfin quand même, tout ça c'est pour nous effrayer que vous dites ces choses, ça n'est pas tout à fait vrai. Si, c'était... Je tire ici d'un catalogue qui est destiné aux enseignants, un catalogue de 1996, donc bien avant les projets. Il faut penser que les éditeurs ont déjà mis en place, eux, les logiciels, ces programmes informatiques sont là. Ça s'intitule « Nos outils », c'est tiré donc du catalogue de l'Association pour la création et les communications entre enseignants, ACCÉ. C'est un logiciel qui est destiné aux élèves donc de CE2, CM1, CM2, 6e, donc fin du primaire et début du secondaire. Donc vous voyez à peu près des enfants qui aussi 8-10 ans. C'est un programme pour apprendre la grammaire française. C'est tout à fait ludique, c'est très pratique et on peut penser que ça va être véritablement utilisé. Le programme s'intitule « Ortho-enjeu », avec un jeu de mots, n'est-ce pas ? L'enjeu, c'est l'orthographe, il faut apprendre l'orthographe, ça c'est ce qui... Mais c'est l'ortho-enjeu, c'est-à-dire l'orthographe apprise de façon ludique, comme le latin sans larmes, la trigonométrie dans la joie et la philosophie par la rigolade. Là, c'est l'ortho-enjeu, sous forme de jeu. Voici juste un prospectus publicitaire, donc je vous donne les arguments qui sont utilisés par les commerciaux pour placer le produit. Une véritable pédagogie différenciée utilisant l'ordinateur, considérant chaque enfant comme un être unique. C'est l'ordinateur qui considère que l'enfant est un être unique et lui propose une progression adaptée. Et le tout, avantage immédiat, sans aucun travail supplémentaire pour le maître. Le rêve, dit la publicité, non, la réalité, grâce à ce nouveau logiciel. Lorsque l'enfant arrive devant l'ordinateur, ce dernier le reconnaît. Vous avez bien compris que c'est l'ordinateur qui reconnaît l'enfant. Et peut lui proposer un exercice adapté. C'est ludique, c'est pratique, c'est assez robotique, vous allez voir. Les thèmes abordés font partie partie des difficultés rencontrées en orthographe grammaticale, accord du participe, homonyme, etc. Les règles de grammaire sont exposées de façon courte et concise, avec des exemples sans surcharge inutile. De plus, si l'enfant ne comprend pas un mot important, il peut facilement puiser dans une importante base de données. La présentation, je le lis, de toute façon, ces documents sont à votre disposition à la fin de la conférence. La présentation des exercices est volontairement ludique. À chaque leçon, l'ordinateur distribue des scores, des bonus. On n'est pas loin, n'est-ce pas, du flipper. Tous vous avez joué, n'est-ce pas, au flipper, bien sûr, ne l'avouez pas. Mais le score monte si la bille tape au bon moment et au bon endroit. De quoi motiver les plus blasés, disent donc les créateurs de ce logiciel. Après une petite initiation, l'enfant est totalement autonome face au programme. Donc l'enfant n'a plus besoin d'un maître, le programme est là, et l'ordinateur lui répond. Si l'ordinateur se trouve dans une autre salle que la salle de cours, ça n'est pas grave, l'enfant peut s'y rendre seul, il n'y a pas besoin de maître. Et il retournera en classe avec un bilan imprimé, c'est-à-dire que l'ordinateur aura remis par le truchement de son imprimante un bilan imprimé, témoin du travail accompli. L'enseignant se trouve ainsi déchargé du travail fastidieux. Puisque tout est pris en charge de la leçon, l'enseignement proprement dit, à l'évaluation. Et là, vous voyez que ça sera quand même beaucoup plus drôle que d'avoir à subir des notes, des examens. Parce que ça devient, on vous dit que c'est vivant parce que c'est avec une machine. C'est interactif puisque c'est la machine qui vous reconnaît. Ça devient de plus en plus drôle. Sur demande, le programme peut imprimer des grilles d'évaluation ou des bilans individualisés. Ainsi, lorsqu'un élève rencontre une difficulté sérieuse, il sera immédiatement repéré par la machine. Et ça n'est pas traumatisant pour l'enfant. Pourquoi ? Parce que l'ordinateur ne considère pas qu'il y a des bons et des mauvais, de bons élèves et de mauvais élèves. Non, ça se termine comme ça, cette publicité. Pour l'ordinateur, l'élève n'est pas bon ou mauvais, il est plus ou moins capable, à un moment donné, de réussir. Ça change tout, c'est vrai. Alors, ça, c'était en 96, et puis on a eu donc ce plan informatique annoncé donc en 97, et puis ce questionnaire et les éléments de réponse. On voit tout de même dans quelle ligne ça peut s'orienter. Qu'est-ce qu'on appelle démagogie ? Peut-être serait-il intéressant de définir quand même le mot. La démagogie, c'est en appeler aux passions, flatter les intérêts individuels, particuliers, c'est viser le court terme. Le refus de la démagogie, c'est l'appel à la raison, c'est viser plutôt le bien commun, et non pas simplement les individus, leurs intérêts particuliers et à court terme. La démagogie, de façon plus concrète encore, c'est la recherche de la popularité, à peu de frais bien sûr, en flattant au fond cet appétit que nous avons tous pour la facilité. Donc ce qui sera anti-démagogique, c'est ce qui fera plutôt appel à l'effort, à l'investissement, c'est-à-dire ce qui mettra en place un vrai projet. La pédagogie, souvent, est anti-démagogique. La vraie pédagogie vise le long terme. Elle doit permettre une formation, justement cette formation de l'intelligence, du cœur. La pédagogie, lorsqu'il s'agit justement d'éducation, c'est permettre à quelqu'un de ne pas suivre ses passions, mais plutôt d'être maître de ses passions, ne serait-ce que la passion de la facilité. Réaffirmer justement un petit peu le rôle de la raison. Je vais vous lire, pour vous donner peut-être un petit échantillon de ce que peut être une pédagogie non démagogique, un texte de Peggy. Ça s'adresse aux instituteurs. Nous devons avoir le courage de le répéter aux instituteurs, disait Peggy, donc au début de ce siècle. Il est indispensable qu'ils se cultivent eux-mêmes. Il ne s'agit pas d'enseigner à tort et à travers, il faut savoir ce que l'on enseigne. C'est-à-dire qu'il faut avoir commencé par s'enseigner soi-même. Les hommes les plus éminents ne cessent pas de se cultiver, ou plutôt les hommes les plus éminents sont ceux qui n'ont pas cessé, qui ne cessent pas de se cultiver, de travailler. On n'a rien sans peine, et la vie est un perpétuel travail. Afin de s'assurer, là vous allez voir le côté un petit peu prophétique de ce texte, afin de s'assurer la clientèle, les instituteurs, on leur a trop laissé croire que l'enseignement se conférait. Or, l'enseignement ne se confère pas. Ce n'est pas, si vous voulez, comme pas un parchemin qu'on vous donnerait. Là, le permis de conduire, ça se confère, effectivement. Vous avez votre permis de conduire, on vous donne le permis comme ça. L'enseignement, ça ne se confère pas comme cela. Déjà, je le citais, mais il faut le reciter. Platon disait, on ne doit pas, lorsqu'on est un maître, simplement déverser son savoir dans une intelligence qui serait là comme un réceptacle passif. En clair, il ne faut pas prendre ses élèves pour des cruches, au sens littéral du terme, vous voyez ce que je veux dire. Il ne s'agit pas de déverser sa science comme cela, ouvrir le robinet et puis déverser. Non, il faut, ça Socrate l'avait bien compris, il faut que la science soit véritablement transmise. Il importe grandement que l'élève ait assimilé personnellement. La prise de possession de la vérité est un travail personnel. C'est repris d'ailleurs par saint Thomas d'Aquin, dans la prima pars de la Somme théologique à la question 117, article 1. Est-ce qu'un homme peut en enseigner un autre? Oui, dit saint Thomas, mais en sachant que l'enseignant n'est qu'un instrument. Celui qui doit véritablement faire l'effort, celui qui est l'agent principal, selon saint Thomas d'Aquin, c'est l'élève. C'est lui qui doit assimiler. Ça se traduit en cours, par exemple à l'Institut Saint-Pédis, parce qu'on sent justement une certaine passivité, une certaine réceptivité sympathique mais apathique. On peut avoir une petite formule de type pédagogique que je souffle là aux collègues qui peuvent se trouver dans la salle. Vous ne prenez pas de notes? C'est dommage, parce que moi je peux en mettre. Et en général, ça active le... On peut avoir une formule un peu plus synthétique encore. Prenez pas de notes, j'en mets. C'est plus simple, comme ça il y a un contraste intéressant. L'enseignement ne se confère pas. Non, de fait, ça ne se confère pas. Il se travaille, il faut que le maître travaille. Il ne peut pas être remplacé par un robot, un ordinateur. Il se travaille et se communique. Alors, Peggy ne voyait pas, bien sûr, les ordinateurs se profiler à l'horizon. Il n'avait pas la moindre idée. Mais il voyait déjà tous ces prêts-à-penser que sont les manuels tout faits. Il n'avait pas encore vu non plus tous ces corrigés tout faits, tous ces livres du maître qui dispensent l'enseignant de dispenser un savoir vrai. Et qui dispensent de penser, ce qui est embêtant quand même. On les a inondés, ces pauvres instituteurs, de catéchismes républicains, de bréviaires laïques, de formulaires. C'était avantageux pour les auteurs de ces volumes et pour les maisons d'édition, ça le sera aussi pour les créateurs de logiciels. Mais ce n'est pas en récitant des bréviaires laïques qu'un homme se forme. C'est en lisant, en regardant, en écoutant, c'est en lisant qu'un homme se forme, et non pas en récitant des manuels, c'est aussi en travaillant modestement. Donc cette part de travail personnel, on a l'impression que... Le questionnaire de M. Allègre a envie de faire un petit peu l'impasse sur cette question-là. On aurait pu demander à n'importe quelle génération, qu'est-ce qui vous ennuie? Est-ce que c'est vraiment aux élèves de juger un petit peu cela? Vous-même qui avez des enfants, vous savez très bien que vous ne demandez pas à vos enfants ce qui les ennuie. Vous vous dites, ils ne savent pas très bien quelle est l'utilité de ce que je leur apprends maintenant, mais ils le sauront. Ensuite, on ne peut pas évaluer, sauf si on plonge l'enfant dans le court terme, si on lui demande de cultiver une espèce de myopie intellectuelle, de ne pas voir plus loin que le bout de son nez. À ce moment-là, bien sûr, là, on vit l'instant présent. Ça me plaît pas, comme disait l'autre, la vie des végétaux et l'histoire très ancienne, j'aime pas. C'est immédiat, c'est spontané, ça a un côté un petit peu primitif, il faut l'avouer, primaire. Oui, mais il s'agissait d'enseignement secondaire, c'est ça qui est dommage. Un côté primaire, peut-être même un petit peu primate. Ça n'est pas vraiment de l'éducation, ça. On n'arrive pas véritablement à s'élever au-dessus de nos passions. Tous, nous avons une passion fondamentale pour la chaise longue, pour la sieste, le farniente. Ça, c'est inscrit depuis le chapitre 3 de la Genèse. Vous n'avez pas vu ça, mais si, c'est le péché originel. Et oui, nous sommes ainsi. Alors nous devons lutter contre cela, c'est Peggy a raison qui dit qu'il faut que nous travaillions, que nous nous prenions un petit peu en main, que nous secouions cette torpeur. Et si nous n'y arrivons pas tous seuls, nous avons besoin justement de maîtres pour nous aider à le faire. Le drame, n'est-ce pas, de ce questionnaire, c'est qu'il semble inviter, je ne dis pas à la paresse, mais en tout cas à l'effort à très très court terme. Si je reprends quelques extraits, vous voyez comme moi, ou du ludique, ça on va tout à fait donc dans le sens de ce qui plaît, mais est-ce que nous avons besoin toujours de faire ce qui nous plaît? Si nous ne faisions que ce qui nous plaît, qu'est-ce que nous ferions? Peut-être pas toujours beaucoup de choses intéressantes, ou alors pour nous intéressantes momentanément. Mais justement, l'éducation, ça n'est pas cela, ça n'est pas dans le moment, ça s'inscrit justement dans la durée. C'est fait pour être comme un investissement sur un certain nombre d'années. On ne peut pas se dire, là, tout de suite, bon, ce qui m'intéresse... Vous voyez, on a le sentiment que M. Allègre est comme un père de famille qui aurait démissionné, comme une mère de famille qui, justement, pour cultiver une popularité à peu de frais, dirait, tu fais ce que tu veux, tu te lèves à l'heure que tu veux, tu prends ce que tu veux, tu manges quand tu veux, le frigo est à ta disposition, la télé aussi, tu fais ce que tu veux. Ça, c'est ce qu'on appelle le laxisme. C'est plus la liberté à ce niveau-là. C'est inquiétant. Alors vous allez me dire, oh, tu vas exagérer. Alors, je vais peut-être vous donner un autre échantillon. À propos justement de la télévision. C'est certain, un professeur justement se dit, mais puisqu'on ne les intéresse plus, on ne les amuse plus, on n'a qu'à ou bien mettre un ordinateur à notre place, ou mettre un écran de télévision. C'est toujours d'ailleurs un écran, ou l'écran de l'ordinateur, ou l'écran de la télévision. Là, c'est l'extrait que je vous lis, c'est un article paru dans La Croix, c'est-à-dire pas un ouvrage suspect, un journal suspect de façon un petit peu inquiétante. Non, au contraire, il n'y a aucune suspicion à nourrir. Dans ce journal, on vous montre ce qui se faisait déjà en 92. Un instituteur de Choisy-le-Roi, donc en région parisienne, Gérard pour les intimes, qui, dès 92, avait mis des postes de télévision à la disposition de ses élèves, à la place même du cours. Et il faisait ça, je comprends, un peu en fin de semaine, alors que les élèves devaient avoir terriblement envie de zapper le professeur. Peut-être avez-vous vous-même cette envie actuellement. On pourrait quand même changer de chaîne, passer du noir et blanc à la couleur. Mais vous attendrez, si vous voulez bien, encore quelques minutes. Mais c'est évidemment ce que l'on a dit, n'est-ce pas? D'ailleurs, Ségolène Royal avait écrit un ouvrage que j'ai lu il y a déjà un certain nombre d'années, plus de 10 ans, qui s'intitulait « Le ras-le-bol des bébés zappeurs ». C'est vrai qu'on vit une génération du zapping, vous voyez ce dont il s'agit, n'est-ce pas, la télécommande, pouvoir comme ça passer d'une chaîne à une autre, changer de programme, changer de disque. Avec cette idée, n'est-ce pas, changer de professeur, c'est pas possible, on peut pas changer de professeur, mais si le professeur est un écran de télévision, c'est parfait, à ce moment-là, on change de programme. Et c'est là que ça commence à être aussi un petit peu inquiétant. Je résumerai ces quelques échantillons dans quelques minutes. Voici... Brut de coffrage, comment est-ce que ça se présentait? Le vendredi, un peu avant 10h30, on sort la télé et on l'installe dans la classe. C'est l'heure. Ce Gérard utilise le cours de géographie de façon là, tout à fait, à mon avis, intéressante, puisqu'il dit « je vais leur montrer à la télévision ce que c'est justement qu'une chaîne de montagne ». C'est très bien. Donc l'image est là. On utilise autrefois des diapositives, maintenant on peut très bien utiliser des images animées, c'est très bien. Mais là où ça me semble un petit peu plus inquiétant, c'est qu'il a des prétentions civiques, ce brave Gérard. Et il pense qu'il peut former de futurs citoyens, qu'il peut les aider, ses élèves. Donc il s'agit d'élèves de CM2, si je ne m'abuse. Hein, c'est ça, donc oui, juste avant le passage en 6e. Ces élèves, il faut en faire déjà donc de bons citoyens. Donc, on va leur apprendre à lire les émissions à la télévision. Ça va être intéressant. Moi, si c'est avec l'idée de donner un jugement critique, très bien. Mais vous allez voir que ce n'est pas tout à fait ça. La télévision, dit le journaliste de La Croix, est aussi un excellent instrument pour sensibiliser les enfants à l'actualité. Sensibiliser les enfants à l'actualité. À un âge où on ne lit pas de journaux, dans des milieux socioculturels où de toute façon l'écrit est absent, Un matin, Gérard a tout juste le temps d'enregistrer sur un magnétoscope un reportage réalisé en Somalie. Vous savez, c'était l'époque où on demandait des sacs de riz pour la Somalie et où nous avions un ministre un peu playboy qui s'arrangeait pour débarquer comme ça sur les plages de Somalie avec un sac sur le dos et quatre caméras devant. La philanthropie médiatique, la charité cathodique, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, le brave Gérard a eu le temps d'enregistrer sur un magnétoscope un reportage réalisé en Somalie, montrant des sacs estampillés « Enfants de France pour la Somalie ». Les élèves ont vu ensuite le reportage. « Voir le riz versé dans des gamelles, ça leur parle », dit Gérard. Cyril, 8 ans et demi, confirme, hélas, c'est à pleurer. Confirme avec l'assurance et la précision de celui qui a vu et qui sait. Rompon, à 8 ans et demi, il doit avoir un petit cheveu sur la langue, zézayant d'émotion. Il y avait un peu de riz qui est arrivé. Et il y en avait à peu près 18 tonnes. Il est arrivé par avion à Anvers. Vous savez comme moi que cette émission faisait partie, n'est-ce pas, d'une manipulation. Il se trouve effectivement, M. Kouchner avait l'intention de faire monter un petit peu son image marque. Et donc, il s'est servi là d'une opération humanitaire. Et Gérard, en termes techniques, là, sert de caisse de résonance ou de courroie de transmission, plutôt de caisse de résonance avec l'idée un petit peu idiot-utile. Caisse de résonance, c'est-à-dire qu'il ne résonne plus lui-même, mais c'est la télévision qui va fonctionner. L'ennui, c'est que les enfants, eux, vont absorber, vont gober. J'aimerais attirer votre attention sur une phrase qui n'a pas échappé à votre sagacité. Le journaliste dit « Cyril, 8 ans et demi, confirme avec l'assurance et la précision de celui qui a vu et qui sait. » Qui a vu et qui sait ? Ben non. C'est pas parce qu'on a vu qu'on sait. C'est pas parce... Si vous voulez, voir n'équivaut pas à savoir. Si je devais résumer ça dans une formule, on devrait dire, ça n'est pas... parce que de fait, l'écran de télévision donne l'illusion de l'objectivité. Vous avez le reportage et vous vous dites, ça y est, j'ai vu. C'est vu, c'est su. Non. Voir, encore une fois, ça n'est pas savoir. Si je devais résumer ça dans une formule un petit peu plus critique encore, je dirais, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, si on veut former de vrais citoyens, si on veut former de vrais chrétiens, il faut leur permettre d'utiliser leur intelligence. Il faut qu'ils se forment. C'est ça la culture, c'est ça la formation de l'intelligence et du cœur. Arriver à faire, n'est-ce pas, des gens qui pensent par eux-mêmes, qui ne pensent pas par procuration, qui ne pensent pas par écran interposé. Des gens qui peuvent prendre un livre et qui peuvent dire, voilà, dans ce texte, ça c'est bien, ça dérape, là c'est intéressant, ça c'est du bourrage de crâne. Là, ça serait une vraie formation. Si donc je devais résumer par une formule un petit peu critique, je dirais, ça n'est pas parce qu'on m'a montré qu'on est dispensé de me démontrer. Or, c'est là le problème de M. Allègre. Avec cette démagogie pédagogique, c'est on va vous donner des émissions de télévision, mais qu'est-ce que c'est qu'une émission de télévision? Par définition, c'est du sensible, c'est du visuel. L'intelligence est un peu court-circuitée, ça va tellement vite. Je faisais une conférence chez les sœurs de Pouilly et un peu avant, je suis sûr de Saint-Pré, avec un réalisateur de télévision, justement, quelqu'un qui travaille à FR3 et qui montrait comment un film est monté. Je ne dis pas nécessairement truqué, mais monté. D'abord, parce qu'on ne peut pas vous donner tout. On est obligé de sélectionner. Il y a des plans, il y a des séquences, donc il y a un montage. Donc, on ne vous montre pas tout. Mais la force, n'est-ce pas, de ces émissions télévisées, c'est que, semble-t-il, une fois qu'on a vu, c'est su. Une fois qu'on vous a montré, vous êtes dispensé de démontrer. Alors, toute l'éducation, toute notre éducation classique repose sur cette idée que, justement, il faut démontrer. Et il faut démonter. Quand on vous fait faire une analyse logique, on vous oblige à démonter une phrase. Une phrase est construite d'une certaine façon, et bien on vous oblige à repérer ce qui est un peu d'ailleurs comme à la télévision, si on veut. C'est le même rapport, c'est-à-dire vous avez une proposition principale qui est la proposition de premier plan. Et puis vous avez en second plan des propositions subordonnées, relatives, circonstancielles. Et puis vous avez des idées tout à fait d'arrière-plan. Et c'est d'ailleurs, quand quelqu'un est capable de faire une analyse de texte comme cela, il sort du commentaire de texte paraphrasé, c'est-à-dire de la platitude, il arrive à voir quelle est l'épaisseur du texte, qu'est-ce qui est au premier plan, au second plan et en arrière-plan. Et il prend un recul critique. L'analyse logique est très importante pour cela. Il faut donner ce sens critique. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, tout est au même plan, donc tout a la même importance. Et ça ne forme pas cela. Ici, je m'insurge, et vous avec moi, j'espère. Lorsque je lis ceci, il a vu et il sait. Non. Ce n'est pas parce que j'ai vu que je sais. Et j'ai besoin personnellement d'un maître qui m'apprenne justement à démonter. Démonter le montage. Ou démontrer ce qu'on m'a montré. Ça, si vous voulez, c'est exactement le contraire de la démagogie. Ça, c'est la pédagogie. C'est lorsqu'on passe justement du plan purement sensible, émotionnel. Parce que là, c'est évidemment émotionnel. C'est fait pour faire pleurer les ménagères de moins de 50 ans devant leur... qui lui utilisait les caméras pour sa gloriole personnelle. Ça, on ne le dit pas. Ça, on ne le montre pas. Il faut arriver à éduquer, c'est-à-dire à faire passer du visuel, du sensible, de l'émotionnel, du passionnel, au plan rationnel, c'est-à-dire là où véritablement la raison fonctionne, où l'intelligence fait abstraction de tout ce qui serait corde sensible. Sinon, qu'est-ce qu'on fera? Vous imaginez bien qu'un enfant qui n'acquiert pas ce sens critique, qui ne peut pas accéder à cette culture qui lui donne ce recul par rapport aux faits bruts, est un enfant particulièrement manipulable, malléable, vulnérable. Ce n'est pas un citoyen en puissance. Ce n'est pas un chrétien formé. C'est quelqu'un qui va gober des images. Pour ce qui est de... Alors on peut dire effectivement quelques petites choses sur les documentaires comme cela. Au cours de ces conférences que nous donnions, donc ce monteur d'FR3 et moi, il nous a passé par exemple deux extraits. Un, c'était sur un reportage, la découverte d'une maladie, d'un remède pour une maladie génétique. Ça se passe à Jussieu, donc à la faculté des sciences de Paris. Et évidemment, comme c'est un montage, ça se passe très très vite, c'est très très court. Le but, n'est-ce pas, de ce reportage, c'est de montrer que grâce à des hommes en blouse blanche, on découvre les remèdes, on arrive à faire reculer la maladie et on sort du reportage gonflé à bloc, le cœur chaud, on se sent meilleur. Ah, si tous les gars du monde pouvaient se donner la main. Tout ça, c'est charmant, mais ça reste à un niveau purement émotionnel. L'aspect scientifique, par exemple, est tout à fait escamoté. On sait à peine ce que c'est que cette maladie génétique et le remède, non. On met l'accent sur ce qui peut effectivement toucher, faire pleurer si c'est possible, des enfants en fauteuil roulant, un professeur sympathique, un peu babacool avec un catogan, c'était très sympathique, évidemment, n'y voyez aucune envie de ma part, c'est pas de la jalousie qui m'inspire. Mais l'aspect vraiment donc culturel, on ne le voyait pas beaucoup. En revanche, on se sent un peu gonflé à bloc, on dit c'est très bien. Seulement, ça va très très vite, vous disais-je, puisque les séquences se suivent. Et alors, on a ce qu'on appelle des fondus au noir, c'est-à-dire que ça a pris quand même 10 ans, cette découverte. Parce que de fait, il faut beaucoup se tromper pour trouver en recherche scientifique. Alors ces 10 ans sont passés là en quelques secondes. C'est plus judicieux, c'est lourde, c'est extraordinaire, c'est un miracle. En 30 secondes, ça y est, la solution est trouvée. Mais ce n'est pas le sens de l'effort. Le problème, n'est-ce pas, de ce genre d'émission, c'est qu'elle raccourcit tellement le temps qu'on ne voit pas que l'effort intellectuel, l'effort scientifique, s'inscrit dans la durée. Le rapport, n'est-ce pas, au temps est faussé. On a l'impression que tout vient comme ça, comme par enchantement. C'est une baguette magique, c'est une mauvaise chose. Vous allez me dire, bon, on ne serait pas dupes, nous. Je veux bien, à votre âge, je veux bien. Mais sur des petits-enfants, je demande 8 ans et demi, Cyril, hein. Il doit penser que ça se fait comme ça, on trouve toute seule, n'est-ce pas? C'est une petite escroquerie intellectuelle que de faire croire ces choses-là aux enfants. C'est de la démagogie. On nous a montré, au cours de cette conférence, un autre reportage sur un sujet tout à fait intéressant, Saint-Exupéry. Vraiment, ça va très très vite. On vous raconte, c'est dans Pilote de guerre, la mort du frère de Saint-Exupéry. Là aussi, c'est émouvant. On montre la photo de ce petit frère qui est mort et qui lègue sa carabine, son petit moteur à vapeur à son frère Antoine. C'est à pleurer, c'est très lacrymogène comme émission. Seulement, après, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y avait sur le plan doctrinal? Qu'est-ce que Saint-Exupéry nous a laissé comme message? Passer Muscade. D'ailleurs, le plan est très court. Après, on se retrouve à Manhattan parce que c'est autre chose. C'est Saint-Exupéry et l'Amérique. Et ça n'est pas formateur. Ça va trop, trop vite. Là aussi, là, c'est pas du zapping, mais ça va très, très vite. Les plans se succèdent. On ne retient pas. On ne mémorise pas. On ne peut pas assimiler. On ne peut pas digérer. C'est à la surface et au fond. Voilà ce que je voulais vous dire. La démagogie, c'est au fond proposer une formation superficielle à l'extérieur, en surface. Or, la formation, cette assimilation ne peut se faire qu'en profondeur, avec un travail très long, très inscrit, là, vraiment, dans le temps. Je ne vois pas cet effort-là dans le questionnaire et dans la réforme qui pourrait être imposée aux lycéens après le dépouillement de tous ces questionnaires. Vous allez me dire, mais l'informatique... Je ne suis pas contre, comme vous peut-être, un ordinateur dont je me sers, je ne suis pas contre l'informatique a priori, mais je ne m'en sers pas pour former des étudiants. C'est un instrument qui me sert essentiellement à faire du traitement de texte, mais, ou de la gestion de fichiers, mais ça n'est pas avec ça que je vais me former. Qu'est-ce qui va se passer si on forme effectivement, soi-disant, ben vous l'avez vu, ortho-enjeu, qu'est-ce que c'est? C'est plus un rapport personnel. Le professeur lui-même, donc, est dispensé de penser. Il n'y a plus ce rapport avec l'élève. L'élève travaille comme avec un flipper. On pourrait d'ailleurs très vite imaginer que toutes les questions feraient l'objet d'un questionnaire à choix multiples. Alors à ce moment-là, c'est un jeu, c'est l'orthographe au grattage et au tirage. Vous voyez ce que je veux dire? On peut voir ça comme une forme de loto. Vous avez trois questions. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Le garde des Sceaux, garde des Sceaux. Hein? Ça, je ne vise pas Madame Guigou, pour laquelle j'ai la plus grande sympathie clinique. Si je regarde effectivement, donc le garde des Sceaux, garde des Sceaux, comment écrivez-vous Sceaux? Et alors vous avez un choix, n'est-ce pas? Alors vous écrivez Sceaux comme un baquet, vous écrivez saut comme un imbécile, vous écrivez saut comme un tampon, et alors vous choisissez, et alors ça complique. Et alors bon, vous avez trois possibilités, parce que de fait, on peut voir ça de trois façons. Alors bon, au petit bonheur, la chance. Mais ça n'est pas la formation, ça. On ne forme pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'intelligence du texte, il n'y a pas l'intelligence du mot. On ne vous donnera pas l'étymologie avec ça. Pourquoi est-ce que le baquet s'écrit sot comme ça? Pourquoi le sot, l'imbécile, s'écrit comme ça? Pourquoi? Si on ne dit pas, n'est-ce pas, aux gens pourquoi ils ne sont pas formés, ils n'accèdent pas à une certaine autonomie intellectuelle. Ils sont donc toujours dépendants d'un autre, celui qui sait. Et ce n'est pas, encore une fois, parce que on m'aura montré qu'on m'aura convaincu. Encore une fois, je vous demande de retenir cela, si vous devez ne retenir qu'une seule chose, c'est ça, ce n'est pas parce qu'on m'a montré qu'on est dispensé de me démontrer. Je pense même que démontrer, c'est souvent même démonter, enfin dans le sens du montage, même un peu volkovien. Il faut essayer de voir qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui tire les ficelles. Et ça s'acquiert. Bien, évidemment, j'ai le sentiment de vous affoler, de vous faire passer une mauvaise nuit, vous allez avoir un cauchemar. Je vais peut-être vous proposer alors quelques réponses un petit peu plus positives. Je vais vous montrer par exemple ce qu'un pédagogue, qui n'est pas un démagogue, le père Calmel, écrivait. Je monte sur la grammaire. Comment est-ce qu'il voyait l'enseignement de la grammaire dans les écoles des religieuses dominicaines? Il ne fait pas de la grammaire un absolu. Pour lui, la grammaire, c'est pas la loi et les prophètes, c'est pas la Bible, c'est pas l'évangile. Non, la grammaire, c'est un moyen. Un moyen, justement, pour acquérir l'intelligence des textes. Mais ça ne dispense pas, justement, c'est pas parce qu'on connaît les règles de la grammaire, qu'on est dispensé de ce travail d'analyse proprement intellectuelle. L'intelligence du texte, il faut l'acquérir, et il n'y a pas là simplement des trucs, des ficelles. Non, non, ça, c'est une confrontation d'une intelligence avec un texte, c'est-à-dire la pensée d'un auteur. Alors, voici ce que disait le père Calmel à ce sujet, vous verrez. Il dit, ne fait, il ne s'agit pas de faire uniquement de la grammaire. La grammaire doit permettre l'accès à cette intelligence du texte. Ne pas faire commencer trop tôt l'étude de la grammaire, dit-il, c'est dans l'École chrétienne renouvelée, page 139. Ne pas en étudier trop, ne jamais en faire l'intérêt principal de l'élève, même en septième ou en sixième. Justement, ça s'adresse aux gens qui doivent subir ce logiciel ortho-enjeu. Ne jamais, dit-il, immoler un beau texte à la grammaire. Donc la beauté du texte et l'intelligence du texte doivent être toujours au-dessus. Mais pour ça, évidemment, il faut que le professeur accepte, bien sûr, de s'investir. Ne pas réduire, par exemple, une page d'auteur dramatique catholique, Henri Guéon, à n'être plus que l'occasion de vérifier une règle. Non. Primauté, n'est-ce pas, de l'intelligence du texte. Enseigner la grammaire, non pas comme une mécanique, mais intelligemment. J'ai peur qu'avec un ordinateur, on va dire, mais non, on n'enseigne pas la grammaire comme une mécanique, puisque c'est informatique. Mais j'ai peur que ce soit le même système, une mécanique et l'intelligence là-dedans. C'est-à-dire, il faut voir la part de logique dans la grammaire, l'analyse, et puis voir aussi qu'il y a des parts de convention dans la grammaire, des contingences. Mais il faut être persuadé, dit le Calmel, que la lecture, la récitation, la copie forment plus, charment davantage que l'analyse et la grammaire. Donc là, il y a une vraie connaissance de la psychologie enfantine. C'est évident que le texte lui-même est plus parlant que la façon dont on le décortique. Seulement, il dit ça forme plus, ça charme davantage. Donc voilà, c'est un charme qui ne se capte pas facilement. Si vous voulez, il y a des beautés faciles, dans tous les domaines, sur le plan littéraire aussi. Il y a des beautés comme ça qui se captent très très facilement, mais qui s'évanouissent aussi. Enfin, des beautés charmantes, mais très vite aussi fanées. Tandis que l'intelligence d'un texte, ça nécessite qu'on accepte justement une certaine lutte. Enfin, il faut conquérir un texte. L'intelligence d'un texte, une belle page. Je vous ai apporté d'ailleurs pour l'hygiène, pour qu'on se termine pas comme ça, qu'on se quitte pas sur des atrocités. J'ai cité Le Monde, La Croix. Enfin, non, je vous ai apporté quand même deux, trois petites choses différentes pour que vous sortiez d'ici à peu près requinqué. Enfin, un texte, c'est vrai, ça demande, bien sûr, une certaine... oui, je disais un investissement intellectuel, c'est vrai, pour bien le comprendre. Une phrase de Tacite, par exemple, c'est pas une beauté facile, ça. Ça s'acquiert, ça se conquiert, même de haute lutte. Mais après, c'est une voie que M. Allègre ne pourra pas nous ravir, ni Mme Royale. C'est une voie, n'est-ce pas, inaltérable. Pourquoi ? Parce que c'est assimilé. De fait, Tacite, ça ne se découvre pas comme ça, ça ne se lit pas facilement. Il faut... Mais il y a d'autres textes aussi, il faut avoir mené presque un combat de haute lutte pour arriver à comprendre cela. Si évidemment on leur dit, mais pas d'effort, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous ennuie? À court terme, tout nous ennuie. À court terme, peu de choses nous semblent dignes d'un intérêt capable d'un investissement sur plusieurs années. Alors, à court terme, c'est vrai qu'on nous donne tout de suite un brevet professionnel. À court terme, qu'on nous donne tout de suite les moyens, justement, de faire du scooter dans les villes sans se faire écraser. Mais ça, dire aux gens ce que vous voulez, on va vous le donner tout de suite, c'est de la démagogie, c'est pas sérieux. Allez, je me suis promis de ne pas vous faire veiller trop tard. Je sais bien que vous êtes disposé à tous les grands sacrifices puisque le carême va commencer, mais il n'est pas encore commencé. Vous avez encore un répit de 24 heures, donc je ne vais pas vous faire veiller trop tard et vous empêcher de faire de doux rêves. Je vais vous proposer un échantillon, justement, vous pourrez vous reporter au père Calmel si vous voulez relire. Peut-être puis-je faire une petite Parenthèse, sur l'enseignement du latin, d'après le père Calmette, qu'est-ce que c'est? Pour lui, le latin, c'est pas simplement pour gagner au jeu télévisé. Vous savez qu'actuellement, la grammaire ne sert plus qu'à une seule chose, c'est à se préparer à la dictée de Pivot. Ça n'a plus d'autre intérêt. Et alors, comme c'est de plus en plus artificiel, ce sont des jeux de foire maintenant. C'est pas l'intelligence de la langue française. Alors, on cherche des mots de plus en plus rares, de plus en plus alambiqués, en se demandant est-ce qu'ils vont trouver. Mais on peut gagner à la dictée sans savoir parler français. Ce que le père Calmel, lui, voyait par exemple à propos du latin, c'est pas pour gagner des jeux télévisés. Ce n'est pas pour briller dans les salons lyonnais, non. Ça n'est pas cela, dit-il. Qu'est-ce que c'est pour lui, le latin? Pourquoi est-ce qu'on apprend le latin? Il dit, bien sûr, ça sert pour l'étymologie, c'est vrai. Mais c'est pas ça, uniquement. Non, c'est que ça nous met en contact vivant, vital, avec nos racines. Pour lui, le latin, ça n'est pas autre chose que ça. C'est nous permettre d'être en rapport avec nos racines. C'est-à-dire pour que la sève véritablement s'écoule dans une personnalité bien formée, il faut bien sûr qu'elle soit alimentée par la racine. Et voici ce qu'il dit. Sur le plan théorique, sachons d'un coup aller au fond du débat et osons déclarer, sur la page 142, si la France a commencé avec les Capétiens, ou plutôt les Mérovingiens, du moins, elle n'a été rendue possible et elle n'a trouvé le meilleur d'elle-même que grâce à la révélation judéo-chrétienne et à la sagesse grecque. Notre enracinement est à cette profondeur. Il faut descendre jusque-là si on veut véritablement atteindre les racines de notre civilisation. Clovis, en devenant notre premier roi, acceptait la foi de Nicée. Ainsi, notre Dieu est le Dieu d'Abraham et de Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Et d'un autre côté, la sagesse grecque, traduite tant bien que mal dans la langue latine, et baptisée par saint Augustin et par l'Église de Jésus-Christ. Telle est la source de ce qui est le plus français dans l'ordre français, le plus européen dans l'ordre européen. Il serait impie de renier notre origine. Donc on fait du latin pour justement revendiquer avec piété ses origines. Il serait barbare de l'ignorer. Il est certain qu'en privant les enfants d'une formation classique, on les fait certainement renouer avec la barbarie d'avant la civilisation chrétienne. Autant qu'il est en nous, nous nous rejoignons avec la Grèce et avec Rome, avec la Grèce par Rome, avec la Grèce d'Homère et d'Aristote, illuminée par la Rome des apôtres et des martyrs. Comment réaliser sérieusement cette jonction si nous acceptons d'ignorer la langue? Penser que les traductions y suffisent, c'est méconnaître la nature même de toute langue, instrument vivant et non interchangeable, d'une pensée vivante et originale. Et ça, c'est le leitmotiv du père Calmette sur cette question du latin. Pour lui, n'est-ce pas, la pensée est vivante, originale, personnelle. Une machine ne peut pas remplacer. Un QCM ne remplacera pas. Il faut, n'est-ce pas, ce contact. Nous n'étudions pas la langue pour la langue, nous l'étudions avant tout pour obtenir le contact avec nos origines. Notre humanisation ne se fait pas que sur le plan horizontal, par la connaissance des cultures contemporaines. Vous avez vu, celui qui, avec beaucoup de franchise, disait, moi, le XIIe siècle, je m'en fous. Je comprends, mais il se coupe de ses racines, parce que il est, lui, là, l'heureux bénéficiaire du XXe siècle, qui dépend du XIIe siècle. S'il n'y avait pas eu le XXe siècle, comme lui dit M. de la Palice, s'il n'y avait pas eu le XIIe, il n'y aurait pas le XXe. Il faut savoir quand même un petit peu ce qui s'est passé. Alors, dit-il, notre humanisation se fait en profondeur et non pas justement à la surface, c'est pas superficiel, en profondeur par enracinement dans notre tradition. Défendre les humanités gréco-latines au nom de la gymnastique de l'esprit, ou en faisant appel aux avantages orthographiques et étymologiques, me paraît tout à fait insuffisant. Je ne vois qu'une raison inexpugnable, c'est l'amour chrétien de notre patrie charnelle et de notre civilisation périssable. Eh oui, depuis Valéry, on sait bien que les civilisations sont mortelles. Et je crains bien que M. Allègre ne contribue, n'est-ce pas, à ce dépérissement et cette mort. On ne fabrique pas avec ce système-là démagogique des citoyens ni des chrétiens. On ne fabrique pas une civilisation. C'est plutôt, comme disait De Cort, une termitière ou une dissociété. C'est parce que nous aimons cette cité à travers laquelle nous pérégrinons vers le Seigneur que nous voulons connaître sa tradition, la connaître telle que l'Église l'a redressée. Les choses étant ainsi, nous lisons les auteurs dans leur langue, une langue sans doute que nous ne parlons plus, mais une langue par laquelle nous a été transmis, baptisé et exorcisé ce que nous disons de plus valable dans notre propre langue. Et ensuite, il parle du grec, bien sûr. Mais offrons-nous peut-être, justement pour l'hygiène mentale, un texte, un beau texte de notre patrimoine, pour, je vous en ai apporté deux. Un plus proche du 19e siècle, un petit peu plus éloigné du 17e siècle. On va voir que ces textes-là doivent nous parler à notre intelligence. Nous devons dépasser le stade purement sensible, émotionnel. Le travail de l'éducateur, de l'enseignant, du professeur, du maître, en un mot, sera justement de faire sentir les beautés du texte. Il y a un jugement esthétique, il y a une sensibilité artiste. Mais on ne peut pas en rester là. Je vais vous lire un texte du 19e siècle, tout simplement de Verlaine, qui montre très bien qu'il y a quelque chose de sensible. Mais si j'en reste au niveau sensible, ce n'est pas parce que j'ai entendu que je sais, ce n'est pas parce que j'ai été sensible à une certaine musicalité, une certaine rythmique, que je peux dire que j'ai l'intelligence de ce texte. Il faut que j'aille à l'idée. Ernest Hello disait, qu'est-ce que c'est qu'un homme qui s'efforce d'être intelligent, c'est-à-dire d'intus legere, de lire à travers les émotions, au-delà justement des émotions, qu'est-ce qu'il doit ? Il doit lire au-delà du fait, l'idée. Dégager d'un fait une idée. Ça, c'est le travail proprement de la raison. Le père Calmel, toujours lui, je termine, rassurez-vous, disait à ses professeurs qu'il formait, il faut que le texte soit étudié à une triple lumière. Bien sûr, la sensibilité aux valeurs esthétiques, proprement littéraires. Ça, on le sent, même par la télévision, on peut comprendre ces choses-là. Mais le travail proprement intellectuel, démontrer, démonter, arriver au cœur même de ce que le texte veut nous dire, ça c'est du jugement. Et alors le père Calmel disait un jugement. Un texte, c'est d'abord une sensibilité aux valeurs proprement littéraires, c'est ensuite un jugement philosophique sur une civilisation. C'est le sentiment de la portée humaine et de la signification morale de cette œuvre. C'est-à-dire qu'il faut passer, là vous voyez très bien, il faut passer du plan sensible au plan intellectuel et au plan moral. C'est-à-dire qu'il faut que soit sollicité et la sensibilité, ça c'est assez facile, mais aussi l'intelligence et la volonté. Et là on forme véritablement un homme, c'est-à-dire qu'on lui permet, c'est ce que je crois vous avoir dit l'an dernier, il vous en souvient, j'en suis certain. Je ne vais pas vous le redemander, je vais vous le dire tout de suite. C'est ce qui doit nous permettre, vous disais-je l'an dernier, de nous élever au-dessus d'une certaine animalité pour accéder au plan vraiment rationnel. C'est-à-dire ne pas rester au niveau, encore une fois, des impressions sensibles, animales, et arriver à ce qui touche notre intelligence et notre cœur, notre intelligence et notre volonté, notre jugement philosophique et notre jugement moral. Alors, dit le père Calmel, le cours de français permettra à vos élèves de se construire. C'est le mot-clé. Sans tomber dans le pathos moralisant, dit-il, parce qu'il était contre le saupoudrage de petites remarques pieusardes et le badigeon d'eau bénite. Il avait raison. Permettre aux élèves de se construire, de s'édifier, c'est-à-dire de se tenir debout, d'être des intelligences, là. Se construire. Mais il faut les trois aspects, les trois éléments. L'aspect sensible, normal, ça, je crois que la télévision permet assez facilement, mais ne pas en rester là, ne pas rester prisonnier des émotions, dominer. Aujourd'hui, on dit gérer ces émotions. Arriver à en rendre compte, arriver à rendre raison de ces émotions. Je vais vous lire un texte qui ne peut pas ne pas provoquer certaines émotions. Mais est-ce que justement nous sommes capables de les analyser ? Est-ce que nous pouvons justement passer le stade émotionnel et arriver à un stade rationnel, c'est-à-dire intellectuel et moral ? On nous invite au fond, là, à travers le père Calmel, à une réforme, non pas à une réforme comme M. Allègre la préconise, Allegro vivace, ça m'a l'air d'aller un petit peu tambour battant, cette affaire-là. Non, une réforme intellectuelle et morale, une réforme au niveau de l'intelligence et de la volonté. Lui, on a l'impression, c'est simplement, de façon démagogique, ça vous plaît plus, c'est pas grave, les petits, hop, on va vous donner autre chose. Vous voulez de l'ordinateur, vous aurez de l'ordinateur. Vous voulez du cyclomoteur, vous aurez du cyclomoteur. Vous voulez de la télé, vous aurez de la télé. Bon, c'est ce qu'il y a de terrible, c'est que le fait, quand nous sommes enfants encore, c'est Saint Paul qui disait, quand j'étais enfant, je raisonnais en enfant, c'est-à-dire pas très fort, pas très loin, pas très profond, pas très élevé. Il faut effectivement que quelqu'un ait le courage de ne pas rechercher une popularité à peu de frais pour nous imposer certains efforts qui vont nous procurer effectivement des joies plus grandes et tout à fait justement inaltérables, inoxydables. Voici ce texte, puisque vous me le réclamez. Vous connaissez, je pense, ce poème. L'âme antique était rude et vaine. Ne voyait dans la douleur que l'acuité de la peine ou l'étonnement du malheur. L'art, sa figure la plus claire, traduit ce double sentiment par deux grands types de la mer en proie au suprême tourment. C'est la vieille reine de Troie. Tous ses fils sont morts par le fer. Alors ce deuil brutal aboie et glapit au bord de la mer. Elle court le long du rivage, bavant vers le flot écumant. Hirsute, criarde, sauvage. La chienne, littéralement. Et c'est Niobé qui s'effare et garde fixement des yeux sur les dalles de pierres rares, ses enfants tués par les dieux. Le souffle expire sur sa bouche. Elle meurt dans un geste fou. Ce n'est plus qu'un marbre farouche, là, transporté, nul ne sait d'où. La douleur chrétienne est immense, elle, comme le cœur humain. Elle souffre, puis elle pense, et calme, poursuit son chemin. Elle est debout sur le calvaire, pleine de larmes et sans cris. C'est également une mère, mais quelle mère, de quelle fille? Elle participe au supplice qui sauve toute nation, attendrissant le sacrifice par sa vaste compassion. Et comme tous sont les fils d'elle, sur le monde et sur sa langueur, toute la charité ruisselle des sept blessures de son cœur. Au jour qu'il faudra pour la gloire des cieux, enfin tout grands ouverts, ceux qui sûrs et purs croient, bons et doux, sauf au seul pervers, ceux-là vers la joie infinie, sur la colline de Sion, monteront d'une aile bénie, au pli de son assomption. Le texte est évident. Donc c'est la comparaison de la douleur, c'est quelque chose de tout à fait émotionnel, c'est pas la douleur. Mais c'est la comparaison d'une douleur païenne et d'une douleur chrétienne. La douleur païenne, on la voit, elle est à un niveau tout à fait épidermique. Ça se sent. Là, vous avez par exemple la douleur de la reine de Troie, c'est presque tangible, ça se touche du doigt. À moins que vous n'ayez aucune sensibilité littéraire, je ne pense pas. Relisons ces deux strophes-là. C'est la vieille reine de Troie, tous ses fils sont morts par le fer. Vous l'entendez, n'est-ce pas, cette douleur? Alors ce deuil brutal aboie, elle glapit au bord de la mer, elle court le long du rivage, bavant vers le flot écumant, hirsute, criarde, sauvage, la chienne littéralement. Vous voyez la rythmique, vous voyez la musicalité, c'est très visuel, c'est auditif, c'est très sensible. C'est presque tangible. Là, il y a quelque chose pour faire sentir, n'est-ce pas, le côté très, très animal, très primaire de cette souffrance. Il y a là, sur le plan tactile, quelque chose de poisseux. Vous le sentez comme moi, la rencontre de deux sécrétions, n'est-ce pas, la bave et l'écume. Ça doit vous dégoûter un peu, bavant vers le flot écumant. Et si ça n'était pas suffisant, sur le plan auditif, n'est-ce pas, brutal, aboie, glapit. Hirsute, criarde, sauvage, c'est très syncopé là sur le plan de la construction. Ça n'est plus articulé parce que du fait, c'est une douleur inarticulée. N'est-ce pas? Hirsute, criarde, sauvage, la chienne, littéralement. Et vous pouvez, par contraste, n'est-ce pas, vous reportez alors à souffrir cette douleur chrétienne, immense, elle, comme le cœur humain, elle souffre, puis elle pense, et calme, poursuit son chemin. Puis vous avez la figure, n'est-ce pas, du Stabat Mater. Elle est debout sur le calvaire, pleine de larmes et sans cris. Vous voyez tout de suite, bon, ben, je pourrais en rester à un plan purement sensible, presque même sensuel. On peut effectivement insister sur cela, mais je ne donnerai pas l'intelligence du texte. Et si je ne donne pas l'intelligence du texte, je ne pourrai pas arriver à porter un jugement moral. Il faut quand même comparer entre une douleur qui nous terrasse et puis une douleur que nous arrivons à contenir et qui nous permet de nous élever. Et il y a quand même un jugement de valeur à porter. Lorsque l'on a cette très belle dernière strophe, n'est-ce pas ? Cela vers la joie infinie, sur la colline de Sion, montrant d'une aile bénie au pli de son assomption. Ça n'est pas simplement la musique, ça ne s'adresse pas uniquement aux oreilles, ça n'est pas simplement là pour satisfaire une démangeaison d'entendre, un prurite auditif. Non, ça parle au cœur, ça parle à l'intelligence, mais il faut investir pour ça, il faut effectivement accepter d'aller un petit peu aux racines, il faut effectivement expliquer à un enfant ce que c'est que le Stabat Mater, qu'est-ce que c'est que cette douleur d'une mère aux pieds de la croix, debout sur le calvaire, pourquoi Stabat, pourquoi elle n'est pas prostrée, elle ne crie pas, elle ne hurle pas, elle n'est pas hirsute, elle, c'est ça, n'est-ce pas? Et on ne peut pas faire autrement un coup. Je ne vois pas ce qu'un ordinateur pourrait tirer de cela exactement. Je ne vois pas tout à fait, même, voyez, je n'arriverai pas dans un montage télévisé à expliquer cela. Il faut là maintenant du répondant, il faut voir un petit peu comment est-ce que la classe répond. Évidemment, si on a affaire à de sympathiques cruches, à des bûches, alors évidemment, il faudra, ça c'est aussi un peu de rhétorique, il va falloir déployer des trésors d'ingéniosité, justement de la pédagogie. Et non pas de la démagogie en disant, bon, vous avez compris, c'est pas grave, ou plutôt qu'on regarde la télé, très bien, allez, on zappe. Il faut se battre, sinon on n'obtient rien. Allez, je termine, c'est une prière presque, c'est cette très belle paraphrase que Racine nous a offerte du chapitre 7 de l'Épître aux Romains. Là aussi, c'est très sensible, mais il ne faut pas en rester là. Mon Dieu, quelle guerre cruelle, je trouve deux hommes en moi. L'un veut que, plein d'amour pour toi, mon cœur te soit toujours fidèle. L'autre, à tes volontés rebelles, me révolte contre ta loi. L'un, tout esprit et tout céleste, veut qu'au ciel sans cesse attaché et des biens éternels touchés, je compte pour rien tout le reste. Et l'autre, par son poids funeste, me tient vers la terre penchée. Hélas! En guerre avec moi-même, où pourrais-je trouver la paix? Je veux, et n'accomplis jamais, je veux. Mais aux misères extrêmes, je ne fais pas le bien que j'aime, et je fais le mal que je hais. Ô grâce, au rayon salutaire, viens me mettre avec moi d'accord, et domptant par un doux effort cet homme qui t'est si contraire, fais ton esclave volontaire de cet esclave de la mort. C'est vrai, c'est très beau sur le plan musical, il y a de très belles antithèses, etc. Je peux rester là. Jugement comme ça, superficiel, esthétique, esthétisant. Je peux même faire, alors c'est une horreur, les universitaires qui sont ici ont dû entendre parler ça, je peux m'amuser à faire de la linguistique, je peux faire même de la stylométrie, c'est-à-dire je peux compter combien de voyelles sont employées, combien de fois le mot, je sais pas, revient là, le mot P, qu'est-ce que c'est que cette littérature débitée comme de la rayonne à la mercerie du coin? Ce quantitatif, c'est cela qui est dramatique, n'est-ce pas? Le règne, n'est-ce pas, de l'ordinateur, malheureusement, c'est le règne du quantitatif. Or, il est évident que si on veut faire au lycée, au collège, des hommes de qualité, il faudra tout de même qu'on touche à la qualité. Ce n'est pas une affaire de quantité. Là où, bien sûr, on peut s'intéresser, les deux premières strophes sont très très belles, c'est parfaitement symétrique, il y a cette opposition, n'est-ce pas, entre le vieil homme, l'homme nouveau, mais si j'en reste justement à un niveau purement littéral, pas vraiment littéraire, si je reste à la surface des choses, ben, on passera à côté d'une beauté qui, au fond, restera scellée, fermée, et les intelligences en face resteront elles aussi fermées, scellées. Or, c'est tout bête ce que je vais vous dire. Il a pris une heure et demie pour dire cela. Oui, j'assume. Nous sommes enseignants pour ouvrir les intelligences. Voilà. Fermez le banc.